et essayer d'attirer votre attention vers des contradictions du débat aujourd'hui, en France, en Europe, qui parlent de citoyenneté, qui parlent d'intégration, qui parlent d'identité, identité nationale, identité immigrée, qui est un débat très politisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup aussi de partis politiques qui en rajoutent dans le débat. Vous avez entendu ce week-end encore, peut-être, que le Premier ministre britannique a dit « Le multiculturalisme est une faillite, les immigrés ne se sont pas intégrés depuis 30 ans en Grande-Bretagne, ils vivent de leur côté, en groupe, ils mettent en danger notre société britannique, c'est une catastrophe, l'islam, etc. » Vous avez, au mois de novembre dernier, la chancelière allemande qui a dit « Le multiculti est un échec ». Vous avez Brice Hortefeux qui, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, n'a pas oublié qu'il a été aussi ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, et qui avait dit en 2008 « C'est la catastrophe, aucun des modèles d'intégration, c'est-à-dire que aucun des pays d'immigration en Europe n'aurait réussi à intégrer ses migrants ». Bon, ça c'est un peu la catastrophe que vous voyez à la télévision tous les soirs, surtout si vous regardez TF1, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des élections dans tous ces pays, que sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, partout les sociétés européennes ont peur de ce qui se passe avec l'immigration, et partout dans les débats sur l'immigration en Europe, on a un scénario, c'est comme un film, avec un scénario très simple. Et ce scénario très simple raconte une histoire qui est une caricature de la réalité. Cette histoire, c'est notre problème, c'est qu'ils sont là avec nous. Le « il » renverrait à l'immigré, au groupe minoritaire, aux musulmans, sans très bien qu'on sache qui sont ces immigrés, qui sont ces musulmans dont on parle. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous dire que ce récit que vous entendez à la télévision, ce récit que vous entendez dans le discours politique, surtout quand les élections approchent. Là, on va avoir des élections présidentielles en 2012. Vous allez voir que les différents candidats vont beaucoup parler d'immigration et vont beaucoup parler d'intégration des migrants. Si j'ai un seul message à vous faire passer, c'est celui-ci. L'intégration, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourtant, ça fait 15 ans que je travaille dessus. Donc, s'il y a des gens qui vous disent « l'intégration ne marche pas », c'est aussi des gens qui ne savent pas ce que c'est l'intégration, donc ils vous disent autre chose. Ils vous disent autre chose parce qu'il y a des peurs, sans doute. C'est très compliqué. Et ces peurs, on les entretient. Pourquoi ? Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, hormis le fait que quand on dit intégration, on ne sait pas très bien de quoi on parle, c'est qu'on dit que le problème des sociétés européennes, ce serait le problème des sociétés européennes à intégrer les immigrés. Et ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que les immigrés dont on parle ne sont pas des immigrés, ce sont des citoyens qui sont nés dans les pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, toute l'Europe. On est tous européens, on est tous immigrés. Et ce débat sur l'immigration ne rime à rien. En 2005, il y a eu des émeutes dans les banlieues françaises, vous vous en souvenez sans doute. Quel a été... Dans les débats que vous avez entendus à la radio, à la télé, que vous avez pu voir dans les journaux, que vous avez eu entre collègues, quel a été le script, le scénario encore une fois, parce que les scénarios ça compte beaucoup dans une société, quel était le scénario qui a expliqué les émeutes de 2005? On a dit, les immigrés ne s'intègrent pas. Ils vivent dans des ghettos, ils sont des communautaristes, ils vivent dans des groupes, ils ne veulent pas appartenir à la société française, ils ont leur culture, leur religion, l'excision, le mouton dans la baignoire, tout ce que vous voulez. C'était le premier réflexe. L'immigration est un problème, les immigrés ne s'intègrent pas, donc les émeutes de 2005. Ils n'étaient pas immigrés, les gens qui étaient dans la rue, dans les quartiers. Ce n'étaient pas des immigrés. C'était des gens nés en France, comme vous, comme moi, avec une histoire familiale compliquée, comme vous, comme moi, qui sont allés à l'école en France, qui ne parlaient que le français, très mal la langue d'origine. Moi, je parle très mal la langue de mes parents. Personne n'est parfait. J'essaye de parler l'anglais avec l'accent marseillais, parce que des fois, je reprends l'accent marseillais, on se fiche un peu de ma figure quand je parle dans une autre langue. Et là, on avait l'idée que, bon, ces immigrés, Ils viennent d'ailleurs, ils parlent leur langue, ils sont entre... Pas du tout. Ils sont nés en France. Ils regardent les mêmes séries télévisées que tout le monde. Ils regardent le même programme. Ils entendent les mêmes radios. Ils vont au McDo comme vous et comme moi. Ils étaient français. On a dit, ce sont des criminels, gangsters, organisés, qui ont mis les banlieues françaises à feu et à sang, avec cette idée que l'immigré est toujours le criminel. Hein, quelque chose qui est très présent dans le discours. Des criminels organisés, des gangsters dans les rues de Lyon, de Paris ou de Marseille, comme si on était aux États-Unis, à Chicago, avec Al Capone dans les années 20, c'est absurde. Les gens dont on parle avaient entre 12 et 15 ans. Alors, ben, je veux bien que la criminalité soit de plus en plus jeune dans les sociétés aujourd'hui en Europe, particulièrement en France, mais arrêtons de nous expliquer qu'à 12 ans, on est un gangster organisé, donc. Quand on nous dit, ce sont des immigrés, ce sont des citoyens français, des gangsters organisés, ce sont des gens très jeunes. C'est qu'on nous explique quelque chose avec un fantasme sur la réalité qui n'est pas la réalité. On nous a dit, ce sont des musulmans. Là, on revient avec l'idée que la différence culturelle est inassimilable, qu'à un moment donné, les musulmans sont tellement musulmans qu'ils ne peuvent pas être des Français comme les autres. Dans les banlieues françaises de 2005, les pouvoirs publics, le gouvernement, les préfectures, certaines associations ont décidé d'envoyer des organisations musulmanes pour essayer d'apaiser un peu la situation et de faire en sorte que la médiation d'organisations musulmanes soit efficace et qu'au nom de la religion de l'islam, la situation dans les banlieues se calme. Mais l'islam n'était pas du tout une référence. Pour eux, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans cette histoire qui était la leur. L'islam, c'était à la limite l'islam de leurs parents. Aucun de ces jeunes dans les banlieues ne s'est reconnu dans l'islam. Ce que j'ai voulu dire jusqu'à présent, c'est simplement ceci. On a des problèmes dans une société qui est complexe, qui a du chômage, qui a des concentrations dans des villes avec des quartiers très défavorisés, avec des gens qui sont en panne pour trouver un travail, pour avoir accès à un logement. La vie est difficile. La vie est difficile, c'est la société qui donne moins de chances, c'est plus difficile de prendre l'ascenseur social. Ça, c'est vrai. Cette complexité, on l'a réduite dans le discours des médias et des hommes politiques à une seule explication, l'immigration, la différence culturelle, le communautarisme. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que entre la réalité et le discours qui explique cette réalité qu'on entend dans la presse ou à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a un espace aussi grand qu'entre la terre et le soleil. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on explique un problème avec des fausses histoires? Pourquoi est-ce qu'on explique le problème des banlieues qui est un vrai problème avec une explication qui ne tient pas la route une minute parce qu'elle n'est pas réelle, parce qu'elle n'est pas conforme à la réalité? Et là-dessus, il faut réfléchir quel est le vrai problème, et c'est le métier du sociologue ou du politologue d'essayer de voir avec ses outils quels sont ces récits qui expliquent les choses et pourquoi est-ce que ces récits qui expliquent les choses n'ont rien à voir avec la réalité. Pourquoi en gros on dit que les musulmans ont mis à feu et à sang les banlieues françaises quand il s'agissait de gamins qui voulaient simplement avoir une vie normale? C'est ça le décalage. Le métier du chercheur, c'est d'essayer de décrypter tout ce qui se passe. Dans tout ce qui se passe, vous avez des choses très contradictoires et c'est avec ces contradictions qu'il faut penser la réalité. Pourquoi la réalité qu'on nous explique n'est pas la vraie réalité? Hein, c'est dans ce décalage entre le discours et le problème qu'il faut réfléchir pour essayer de résoudre les problèmes. Comment voulez-vous résoudre une intrigue criminelle? Il y a un meurtre. Hein, dans un quartier de Londres, il y a un meurtre et le scénario est faux. Comment voulez-vous trouver le coupable? Bon, pareil, socialement, quand il y a des problèmes sociaux qui se posent, comment voulez-vous les résoudre si l'explication qu'on va discuter n'est pas là où il faudrait qu'elle soit? Dans ces discours, il y a beaucoup d'identités. Vous entendez beaucoup parler de multiculturalisme, c'est-à-dire la diversité culturelle, c'est-à-dire ces identités de groupe qui seraient très fortes, qui seraient peu souples, qui expliqueraient en fait tous nos problèmes sociaux. Le problème, c'est l'islam. Le problème, c'est la femme voilée, etc., etc. L'identité, c'est pas quelque chose qui est figé. L'identité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Si je vous demande qui je suis, vous allez me dire, sans doute, peut-être, je sais pas, que je suis un vieux monsieur qui vient de Paris et qui donne des conférences ennuyeuses. Là, vous voyez, c'est le scénario catastrophe. Vous pouvez me dire ça, mais moi, je ne vais pas me reconnaître du tout dans cette définition. Moi, j'ai l'impression d'être encore jeune, de ne pas être forcément très ennuyeux. Et si je viens de Paris, je vais vous dire, oui, c'est vrai, mais moi, je viens de Martigues. Et franchement, je ne suis pas parisien. L'identité, c'est toujours ce que vous allez projeter sur moi. Vous allez me regarder, vous allez me définir. Et moi, je vais avoir sans doute aussi une manière de vous voir. Je vais vous dire, bon, ça, c'est des étudiants de Valenciennes, point. Et je vais pas peut-être aller chercher beaucoup plus loin pour vous connaître. Et je sais que vous, finalement, vous avez d'autres manières de vous définir. Étudiant au lycée du Hainaut, ou membre d'une association, ou vous êtes musicien, ou vous êtes amoureux, je ne sais pas. Même s'il n'y a pas beaucoup de filles parmi vous. La question de l'identité, dans le débat, dans ce débat dont je viens de vous parler, qui est un débat qui cristallise, qui caricature, voilà. C'est un débat qui caricature la réalité pour l'expliquer. Dans ce débat, l'identité, on l'a traduit dans une sorte de forme. Il y aurait une forme des identités qu'il faudrait faire rentrer, vous savez, ce jeu. Peut-être que vous avez encore des frères et des sœurs en bas âge. Le premier jeu auquel on joue, c'est il y a des formes, un triangle, un rond, une étoile. Et le but du jeu, c'est de mettre le rond dans l'espace rond, l'étoile dans l'étoile. Vous voyez à quoi je fais référence. La définition du débat sur l'immigration et l'intégration, c'est ça. On imagine des ronds et des triangles et on veut faire croire que la société d'accueil, qui n'est plus une société d'accueil puisque c'est leur pays, comme on le partage ce pays, nous faire croire que ces ronds, il faut qu'ils rentrent dans des ronds. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe. La notion de citoyenneté est beaucoup plus complexe que des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Et ça, c'est mon deuxième point. On a des scénarios qui ne collent pas avec la réalité. On va essayer de réfléchir un peu pourquoi on a ces scénarios qui ne sont pas conformes à la réalité et pourquoi l'immigration est si importante dans ces scénarios. Mais l'autre point, c'est qu'on a figé le monde dans lequel on vit dans quelque chose qui est trop simple pour être intéressant. Le monde, c'est plus compliqué que des ronds qui rentrent dans des ronds et des carrés qui rentrent dans des carrés. La citoyenneté, c'est pas quelque chose dans lequel on s'intègre. La citoyenneté, c'est une participation. C'est là que ça devient compliqué. Il y a des idées, il y a des valeurs, vous entendez parler des valeurs de la République française, la Révolution française, la Déclaration des droits du citoyen, le droit de vote, etc., la laïcité. Donc il y a des idées comme ça, il y a des grandes valeurs. Mais ces valeurs, elles ne sont pas données une fois pour toutes, elles changent. La France de 1789, ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Okay? Donc, la première dimension de la citoyenneté, je dirais, c'est le temps. C'est le temps qui passe. C'est quelque chose qui fait que la société a déjà changé. Donc, les problèmes de la société française aujourd'hui ne ressemblent pas aux problèmes de la société d'hier. D'accord ? Aujourd'hui, dans le débat sur l'intégration, on oublie le temps qui a passé. Et on dit, regardez ces vagues d'immigration polonais, italiens du début du XXe siècle, eux s'intégraient, c'est bien la preuve que les nouveaux immigrés ne s'intègrent pas comme il faudrait. La société a déjà changé. Dans les années 20 ou 30, c'était difficile d'être un ouvrier, mais c'était peut-être plus facile de travailler, c'était plus facile d'avoir un logement, c'était plus facile d'être soigné. L'État commençait à développer ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire les allocations familiales, le remboursement des frais de santé. Aujourd'hui, c'est pas que les sociétés ont un problème avec l'immigration, c'est qu'elles ont dû accueillir de l'immigration dans les années 70-80, au moment où il y avait du chômage, au moment où le logement était difficile, et au moment où les sociétés sont devenues racistes et elles ont commencé à discriminer. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire qu'il faut que les immigrés s'intègrent comme ils s'intégraient hier, parce que la société a déjà changé. On ne vit plus dans le monde de Ernest Renan, le fameux, celui qui a donné la fameuse définition de l'identité française en disant c'est le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que tout le monde doit vouloir être citoyen chaque jour en se levant et s'intégrer. Non, le vote a changé, on vote moins. C'est pas les immigrés qui ont fait que les gens votent moins aujourd'hui en France. Ce que je veux dire, c'est que la société a changé. Donc on peut pas demander aux gens de se comporter comme ils se comportaient à la fin du 19e siècle. On est aujourd'hui, et c'est là que je voulais en venir, on est dans des sociétés qui sont plus compliquées, qui sont multiculturelles. On vient tous, vous voyez ces regards, on a tous des identités compliquées. On a tous des origines. Et c'est une richesse. Donc on n'a pas le choix. Pourquoi donc, aujourd'hui, continuer à accepter le discours qui nous dit le problème c'est l'immigration, le problème c'est la diversité, quand les sociétés sont de fait des sociétés diverses. D'accord ? Dans mon histoire des ronds et des carrés, il y a un autre aspect, au-delà du fait qu'on imagine que tout est figé, que Marianne de 1789, c'est Marine de 2010. Il y a une autre dimension compliquée, c'est que la citoyenneté ne résout pas tous les problèmes. On nous dit, l'immigré doit s'intégrer, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'immigrés, il s'agit de gens comme vous et moi qui sont nés ici, qui sont devenus des citoyens, donc c'est pas un problème d'identité. L'identité n'est pas figée, je vous l'ai dit, l'identité c'est une relation, c'est un regard. L'identité, c'est une... Comment est-ce que vous me percevez? Comment moi, je vous perçois? Le temps a passé. On ne peut plus vivre dans la même manière qu'avant. Mais surtout, il n'y a pas une solution avec la citoyenneté. La citoyenneté, c'est contradictoire. La citoyenneté, c'est de l'inclusion. On imagine que la citoyenneté ou l'intégration, c'est fait pour inclure les gens. Mais quand vous incluez des gens, vous en excluez d'autres. Les étrangers, aujourd'hui... Les sans-papiers, les gens qu'on expulse, c'est des gens qui, parce que certains rentrent dans la citoyenneté, d'autres sont exclus. Tout le monde ne veut pas rentrer dans la citoyenneté. Donc c'est très ambigu. C'est l'inclusion, mais c'est l'exclusion aussi. Le citoyen n'existe que parce qu'il y a des étrangers. On nous dit, c'est l'égalité. Mais on ne vit pas dans des sociétés qui ont pour organisation l'égalité. On a tous fait l'expérience de l'inégalité. On est tous inégaux devant le travail, devant le logement, devant l'argent. Mais ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'on puisse évoluer, travailler, vivre et avoir un parcours individuel. Et en même temps, la citoyenneté nous dit « vous êtes tous libres et égaux ». Comment est-ce que vous conciliez cette idée qu'on est tous égaux et en même temps que la société fonctionne sur l'inégalité? Il y a des gens en haut, il y a des gens en bas, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, etc. Donc la citoyenneté, c'est quelque chose qui est très contradictoire. C'est déjà quelque chose qui est très contradictoire. Il ne faut pas penser que la citoyenneté, c'est un bloc homogène qui existe et sur lequel se heurteraient des gens qui n'arriveraient pas à s'intégrer. Non. La citoyenneté, c'est le conflit. La citoyenneté, c'est aujourd'hui l'immigré. Mais hier, c'était le pauvre. Avant-hier, c'était la femme qui n'avait pas le droit de vote. Vous imaginez que vous allez bientôt voter, vous, parce que vous allez avoir 18 ans, vous avez peut-être déjà 18 ans. Il y a 30 ans, vous n'auriez pas eu le droit de vote à 18 ans. Il aurait fallu attendre 21 ans. D'accord ? Donc, il y a des gens qui sont exclus et les choses évoluent très vite. La citoyenneté, c'est toujours l'extension du domaine du droit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des droits et ils s'élargissent au fur et à mesure. Ils vont s'élargir demain, sans doute, au multiculturalisme, mais on vit encore dans des sociétés qui ont des logiciels de fonctionnement, si vous voulez, qui pensent l'homogénéité culturelle, qui pensent que la diversité est un problème, quand les sociétés sont déjà des sociétés multiculturelles. C'est un autre problème. Je voudrais maintenant rentrer vraiment dans le concret. Je voudrais donner un exemple. Il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de participation à la société, il n'y a pas d'appartenance à une société. Si vous êtes tout seul dans votre chambre sans travail et que vous ne voyez personne, c'est évident, on est d'accord. Être citoyen, c'est appartenir à une société et se sentir appartenir. Traditionnellement, il y a des grandes institutions qui créent le citoyen, qui donnent aux gens le sentiment d'appartenir. Il y a l'école, ici. Il y a eu le parti politique pendant très longtemps, le syndicat. C'est-à-dire les gens se retrouvaient ensemble et travaillaient sur un projet ensemble et sentaient qu'ils appartenaient ensemble à à la même société. Il y a eu une très 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 grande école de citoyenneté, une très très grande institution de citoyenneté pendant très longtemps, qui a été l'armée. L'armée. Hein? L'armée, où il y avait le service militaire, chaque génération devait passer quelque temps dans l'armée, et on sait qu'historiquement, depuis la fin du 19e siècle, c'était la principale fabrique du citoyen national. C'est-à-dire que les gens venaient de Valenciennes, de Martigues ou de Montauban, passaient quelque temps dans l'armée, et ils devenaient des Français. Ils avaient appris à parler avec moins d'accent parce qu'ils étaient confrontés aux accents des autres. Ils avaient appris que quand ils allaient de caserne en caserne, ils appartenaient au même pays. L'armée, le service militaire, ça a créé, comme ça, l'identité nationale. Donc l'armée, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération de gens qui sont nés de parents étrangers. Ces fameux immigrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas toujours immigrés puisqu'ils sont nés en France. Bon. En France, il y a de la discrimination. En France, c'est très difficile, c'est encore une histoire de regard, d'être reconnu comme un Français. Vous pouvez avoir la carte d'identité, vous pouvez vous sentir français, regarder TF1 et aller à McDo, et en même temps ne pas être vu dans le regard des autres comme un Français, parce qu'on va voir une différence. C'est ça la discrimination. Des gens issus de l'immigration se sont dit, bon, avoir un boulot c'est difficile en France parce que je suis victime de discrimination, le marché du travail est compliqué, j'ai essayé d'avoir plein de stages en entreprise, ça n'a pas marché, mon CV n'était pas accepté, sans doute à cause de mon nom de famille, à cause de ma photo, à cause de mon adresse en banlieue. Et beaucoup de gens confrontés comme ça à cette limite de la discrimination, ne pas trouver un boulot, se sont dit, le dernier endroit en France où je peux trouver un boulot, c'est l'armée. L'armée recrute. Et l'armée, vous avez cette image, vous avez vu les films, vous avez cette image que finalement, d'où qu'on vienne, c'est pas important parce que on est tous soldats, on est tous sous l'uniforme. On n'a aucune différence entre nous si ce n'est les insignes sur les épaulettes. La seule différence normalement dans l'armée, c'est les différences de grade. Hein? Bon. Donc il y a eu beaucoup d'espoir de cette génération née de gens issus de l'immigration que l'armée leur donnerait enfin l'égalité, un boulot, et qu'on reconnaissait surtout quelque chose qui est très important. C'est que aujourd'hui encore dans les débats, on dit les immigrés n'aiment pas assez la France, par exemple. Vous connaissez ce slogan, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Hein? C'est un débat qu'on a depuis les années 80. Bon. Pour contourner ce cliché du jeune issu de l'immigration qui n'aimerait pas la France, ces gens, garçons et filles d'ailleurs, se sont dit, si je rentre dans l'armée, enfin, ils vont voir la société française à laquelle ils appartiennent pourtant. Ils vont voir que mon pays c'est la France, que je suis prêt à mourir pour la France, que je suis prêt à tuer pour la France, que je suis prêt à partir faire la guerre pour la France. Donc il y a eu beaucoup d'attentes de ces gens issus de l'immigration en rentrant dans l'armée. Enfin on va me reconnaître et enfin je vais disparaître. Enfin on ne va voir en moi que le français. Enfin je vais échapper aux discriminations. Que s'est-il passé ? J'ai fait 7 ans de travail dans les armées françaises pour voir que devenaient ces gens issus de l'immigration qui voulaient disparaître dans l'armée, devenir des citoyens, montrer qu'ils étaient loyaux et qu'ils avaient une vraie allégeance envers l'État. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils ont disparu ou pas ? Ils n'ont pas disparu. C'est-à-dire que rentrés dans l'armée, ils ont continué à être vus comme un arabe de service. Dans la gendarmerie, on a mis les Arabes entre eux et on les a envoyés en patrouille. Certains ont été discriminés au moment d'avoir accès à une formation de langue ou passer un concours pour devenir officier. Certains ont eu des enquêtes de la police militaire sur leur lien éventuel avec le terrorisme. Ce cliché que l'immigré, le musulman, le criminel et le terroriste, tout ça font partie d'un même ensemble. Certains ont eu un vécu et des émotions tellement fortes dans cette armée dont ils attendaient beaucoup, la reconnaissance d'être enfin des citoyens français, qu'ils ont été obligés de la quitter, l'armée. Ils ont démissionné. Ce que je veux montrer avec l'exemple de l'armée, c'est que, d'abord, le regard c'est quelque chose de très important. C'est vous pouvez faire tout ce que vous voulez parfois, le regard vous suit. C'est-à-dire vous pouvez dire à la société française, je suis un citoyen comme les autres, la preuve, je rentre dans l'armée. À un moment donné, parfois, pour certains, le regard est encore là et on reste cet immigré qu'on n'est pas. La première chose. La deuxième chose, c'est que l'armée a pris ça très au sérieux. Ils savent très bien que les discriminations, c'est scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire que s'ils laissent libre cours à la discrimination raciale dans une institution d'intégration, l'armée, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc il y a une politique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on laisse faire dans l'armée la discrimination. Non, il y a une politique. Il y a une politique, mais en même temps, il y a beaucoup de déçus. Si aujourd'hui, on a des sociétés qui pensent que la citoyenneté est la solution au problème de l'intégration, qui pensent que le problème de l'intégration est un problème lié à l'immigration, mais qui laissent faire la discrimination dans ces fabriques de l'intégration que sont les institutions comme l'armée, l'hôpital, la police, etc., là, on a un problème d'intégration qui n'est plus celui du début. Au début, je vous disais, les émeutes 2005 ont été expliquées en disant les immigrés, l'islam, les criminels. Là, c'est une manière de définir le problème de l'intégration en disant c'est leur faute. Et notre société va mal parce que eux ne veulent pas s'intégrer. Ça, c'était le discours sur 2005. Ce que j'ai voulu vous montrer avec mon exemple de l'armée, c'est de vous dire qu'on a un problème d'intégration sans doute en France et dans les sociétés européennes. Mais ce problème d'intégration, c'est pas celui qu'on imagine le plus souvent. Ce problème d'intégration, c'est la difficulté d'une société de s'accepter avec cette complexité, avec cette diversité. Le problème d'intégration auquel je voudrais faire référence, que je voudrais vous transmettre pour mieux réfléchir, c'est que c'est pas les immigrés le problème, c'est les institutions de la société. Est-ce qu'aujourd'hui on vit dans une société qui donne des chances égales à tout le monde? Oui ou non? Comment faut-il faire pour travailler? Mais c'est là le vrai sujet. Donc lorsque vous entendez aujourd'hui des gens qui vous expliquent le problème, c'est l'intégration des immigrés, vous pouvez leur dire oui, mais ils ne sont pas immigrés, et le problème c'est comment est-ce que la société regarde ces gens, leur donne une égalité de chance, une égalité d'opportunité, et surtout comment la société arrive à penser le moment présent. On est des sociétés multiculturelles, on n'a pas le choix, on peut être normatif, c'est-à-dire parler en termes de valeurs et dire c'est très bien, mais arrêtons de vivre sur des faux récits. D'accord ? Donc, il y a peut-être un problème d'intégration, mais ce problème d'intégration, c'est pas des groupes immigrés et leurs identités. Le problème d'intégration, c'est des sociétés qui sont en retard pour produire l'égalité des chances, pour produire l'inclusion sur le marché du travail, pour lutter contre le racisme. C'est là le vrai problème. Je sais pas combien de temps il me reste.
Encore 10 minutes.
Ok. Maintenant, je voudrais passer au dernier, un dernier aspect de cette discussion. Donc, un, le problème de l'intégration est beaucoup plus compliqué. Deux, le problème de l'intégration n'est pas là où on l'imagine. Il est dans le fonctionnement de la société. Donc, les immigrés n'ont pas la charge de la preuve. C'est pas eux de prouver qu'ils sont intégrés, c'est aussi aux sociétés européennes de prouver qu'ils ont envie d'intégrer cette diversité. Troisième point, je parlais de regard, je parlais d'institution, je voudrais parler à nouveau de scénario et de récit. Il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte pour parler de l'intégration des immigrés et de la citoyenneté, beaucoup. En France, je vous ai dit, c'est le républicanisme, la République, Marianne et la laïcité. En Angleterre, vous savez que c'est pas la République, la laïcité et Marianne, c'est très différent. On dit que c'est le multiculturalisme. Aux Pays-Bas, on dit aussi que c'est le multiculturalisme. Et en France, quand on discute de notre République, on prend toujours l'exemple de la Grande-Bretagne ou des Pays-Bas pour dire, nous, on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas avoir des quartiers de concentration avec des minorités ethniques qui vivraient entre elles, qui refuseraient d'appartenir à la même société. On ne veut pas leur communautarisme. C'est un mot qui est important dans le débat en général. Très bien. Et on a vécu pendant 30 ans sur l'idée que, oui, en France, nous, on est républicains et eux, ils sont multiculturels. Et ça a expliqué beaucoup de choses. Ça nous a suffi pour expliquer beaucoup de choses. Et là-dedans, l'Europe, parce qu'on est aussi en Europe, a eu peu de place. Hein? Ça a été des identités nationales, ça a été des types de philosophies, le multiculturalisme et le communautarisme contre la France et sa République. Bon. Il y a un élément de complexité que je voudrais vous donner, au moins vous donner l'intuition de cette complexité, c'est que il n'est pas évident que la France ait eu un modèle républicain comme on l'imagine, et il n'est pas évident que la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas aient eu un modèle multiculturaliste comme on l'imagine. Il n'est pas évident que la différence idéologique entre ces trois pays soit aussi forte qu'on le dit habituellement. En France, si je regarde les 30 dernières années de politique d'intégration, et le débat, et les politiques publiques, c'est-à-dire que fait l'État pour intégrer les immigrés, je ne trouve pas une seule définition qu'on pourrait dire la République. J'en trouve plusieurs. J'en trouve quatre. On a d'abord dit que c'est des étrangers qu'il faut transformer en citoyens. Donc c'était des étrangers et on les a intégrés par la nationalité. Très très vite, dans les années 90, on a pris conscience que le problème n'était plus des étrangers, ils étaient déjà des citoyens, que le problème était la discrimination, qu'on pouvait être de fait un citoyen français et en même temps ça n'empêchait pas d'être discriminé. Et c'est devenu très vite le noyau du débat, il faut lutter contre la discrimination. Ça n'a pas duré plus de 10 ans et on est allé vers quelque chose de très différent qui a été la laïcité. La laïcité, vous en avez entendu parler. Je serais curieux de savoir comment vous la définissez, on y reviendra au débat tout à l'heure. Mais en gros, on a dit le problème, c'est plus l'étranger qui doit devenir un français, le problème, ce n'est plus le français qui doit arrêter d'être discriminé en raison de ses origines, le problème, c'est le musulman et son refus de s'intégrer dans la conception laïque de la société française. Laïque, on en discutera tout à l'heure. Et là, il y a eu la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires. La grande croix et le petit voile, en gros. Donc on voit très bien vers où s'orientait le débat. Le problème n'était pas les petites croix en or que d'aucuns peuvent porter dans les lycées. La loi ciblait vraiment le port du foulard dans les établissements. On a tellement été obsédé d'ailleurs par l'islam dans ce débat sur la laïcité autour de 2002-2003 qu'on a fait une loi et après on a réalisé qu'en France on avait aussi des sikhs. Sikhs. On n'imaginait pas qu'il y avait des sikhs en France. Les sikhs sont sortis d'un coup en disant « Mais nous, cette loi, elle ne nous va pas du tout. Hein » Donc, là, ça vous montre aussi comment est-ce que lorsqu'on produit une loi, on a des effets collatéraux qui ne sont pas anticipés parce que la société est plus compliquée. Il y avait des sikhs aussi en France, il n'y avait pas que des musulmans. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est la burqa. Alors la burqa, c'est pareil, ça n'existe pas. Je suis désolé si vous pensiez qu'il y avait des burqas en France, vous allez être déçus. Il n'y a pas de burqa en France. La burqa est un vêtement très particulier qui a pour origine une des régions d'Afghanistan. On n'a pas d'immigration qui viendrait de cette région en France. Les gens ne portent que ce qu'on appelle une niqab. Alors pourquoi appeler quelque chose par un nom qui n'est pas le sien? Pourquoi dire que c'est une burqa et pas une niqab? Là, c'est toujours la même question du décalage entre la réalité et le discours. C'était tellement facile de dire burqa et de dire aux gens, vous voyez, l'islam c'est comme en Afghanistan. Ce qui passe dans nos rues et le traitement de ces femmes voilées est exactement la même chose que ce pourquoi on fait la guerre en Afghanistan, les raccourcis. Hein? Donc aujourd'hui, on est dans un autre discours, mais si on reprend à rebours maintenant la burqa, la laïcité, la lutte contre les discriminations et la nationalité, il n'y a pas une définition homogène, il n'y a pas une définition unique de ce que ça veut dire la République. Il y en a plusieurs, ça change à chaque fois. Donc, gardez en tête que les grandes catégories idéologiques du débat, il faut creuser derrière, il ne faut pas les accepter comme telles. La République n'explique rien. Mais on utilise beaucoup la République pour justifier beaucoup de choses. Mais la République en soi n'existe rien. Le multiculturalisme est plus intéressant. Aujourd'hui, j'ai commencé par ça, le Premier ministre britannique nous dit « L'intégration des immigrés, ça ne va pas du tout en Grande-Bretagne à cause du multiculturalisme qui a été notre modèle pendant si longtemps. » Quel modèle? Il n'y a pas eu de modèle en Grande-Bretagne. Mais une différence par rapport à la France. Et avec ça, je voudrais finir, parce que ça vous montre vraiment très bien comment est-ce que, très loin des questions philosophiques, vous avez des sociétés qui se fabriquent leur réalité, au-delà des clichés. La Grande-Bretagne, s'est passé une histoire assez intéressante. Dans les années 60, donc on est juste après la fin de l'Empire colonial, vous avez les premiers immigrés qui arrivent d'Inde, du Pakistan, des Antilles. Et à cause de l'héritage colonial britannique, ces gens, lorsqu'ils arrivent, dès leur arrivée, ils sont des citoyens. En France, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris 30 ans pour rentrer les immigrés dans la citoyenneté. Les Anglais, eux, l'ont fait tout de suite. Les immigrés sont arrivés, ils étaient citoyens. Ça veut dire quoi? Ils pouvaient voter. Ils pouvaient être élus. Et tout de suite, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans les villes où ils sont arrivés, à Birmingham, à Londres, etc. Ils sont organisés en association. Ils ont pu envoyer des gens à la Chambre des Lords, à la Chambre des députés. Très vite, vous avez une société qui a changé parce que les gens pouvaient voter. Parce que les gens ont considéré que c'était important de participer. Et parce qu'ils ont pu participer, la société britannique a dit « Notre problème n'est certainement pas leur origine. Notre problème, c'est est-ce qu'on va être à la hauteur pour les accueillir ?» Le résultat, c'est que, très concrètement, très pragmatiquement, en dehors de tout débat philosophique, les Anglais ont décidé à un moment donné de se dire « Notre société ne va pas fonctionner si, un, on accepte la discrimination, si, deux, on ne lutte pas contre le racisme, et si, trois, on ne se reconnaît pas comme une société construite par l'immigration. » Et ça vous a donné la société d'aujourd'hui. Et lorsque le Premier ministre britannique vous dit « le multiculturalisme est un échec », les chercheurs lui répondent « le multiculturalisme, ça ne veut rien dire ». Par contre, la citoyenneté a très bien marché en Angleterre, parce que ça fait 30 ans que les gens dits immigrés participent, votent, sont élus. Vous avez une douzaine de représentants issus de l'immigration dans le Parlement britannique depuis assez longtemps. Il a fallu attendre 2004 en France pour avoir les trois premières élus issus de l'immigration. 2004, et encore c'était au Sénat. Donc vous avez une société finalement en Grande-Bretagne qui n'est pas le communautarisme ou les groupes fermés sur eux-mêmes qu'on nous raconte le plus souvent. Vous avez une société qui a réussi à fabriquer une élite, qui a réussi à fabriquer une classe moyenne, qui a réussi en gros à donner le plus, on peut toujours rêver d'avoir plus, mais les meilleures chances d'accès à l'égalité des opportunités. Donc finalement, vous avez une citoyenneté qui a fonctionné, vous avez des institutions qui ont fonctionné, y compris des institutions politiques, partis politiques, parlement, médias. Si vous regardez la télé anglaise, elle ne ressemble pas du tout à la télé française. Télé française, excusez-moi, mais c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire, pas beaucoup de diversité à la télé française. Ou alors, on l'affiche, mais c'est un peu les clichés. Que ce soit pour les gens issus de l'immigration, que ce soit pour la question de la sexualité avec les gays ou les lesbiennes, que ce soit pour les handicapés, à la télévision française, vous avez, excusez-moi l'expression, mais encore des gens qui sont plutôt blonds, aux yeux bleus, qui marchent bien, sportifs et habillés en Gucci. Hein ? La société britannique, parce qu'ils avaient le droit de vote depuis le début, a pensé quelque chose qui était radicalement différent. Donc, et là je finis là-dessus, au-delà de l'opposition idéologique qui voudrait dire que le multiculturalisme est une catastrophe en Angleterre parce qu'ils ont accepté que des groupes vivent ensemble, enfermés et entre eux. Donc l'échec de l'intégration en Grande-Bretagne. Et la situation française où on nous dit la République, il n'y a de passage pour la citoyenneté que par l'intégration, voire l'assimilation, nous refusons la diversité si elle intervient dans l'espace public, au final, je dirais que la crise n'est pas du côté britannique, la crise elle est plutôt du côté français. Vous avez une société qui a du mal à se penser diverse en France. En Grande-Bretagne, vous avez une société qui se pense diverse, c'est compliqué, il y a du racisme, mais ça marche. En France, vous avez des gens qui sont encore en train de lutter pour accéder aux postes à responsabilité. Des gens issus de l'immigration ou nés de l'immigration. En Angleterre, vous avez des gens qui depuis 30 ans sont dans les postes à responsabilité. En France, vous avez la question de la discrimination qui est entre le tabou et le sans-intérêt. Aucune élection importante en France, présidentielle ou législative, ne se noue autour de la question de la discrimination. Donnez-moi le nom d'un seul candidat à l'élection présidentielle en France qui aurait dit « Non, non, il faut vraiment lutter contre la discrimination » et qui aurait été élu. En Grande-Bretagne, c'est un acquis et l'enjeu n'est pas le passeport, etc. L'enjeu, c'est bien sûr qu'il faut lutter contre la discrimination. Hein? Donc, la question de l'échec du multiculturalisme qui serait lié à l'échec de l'intégration, la relative réussite de la République française à intégrer ses migrants, sauf quand ces migrants ne le veulent pas, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi il fallait ne pas l'accepter comme discours, parce qu'il ne s'agit pas de migrants, parce que l'intégration est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, parce que la France n'a pas mieux réussi que d'autres, et parce que ce qu'on imagine être comme la catastrophe du multiculturalisme n'en est pas une. Voilà. Je vous remercie.